OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse au chapitre 1, les versets 14 à 31. Verset 14 à 31. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. » Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « Les trois derniers jours ». L'avant-plan du drame créationnel. Quand on se souvient de la semaine dernière, notre dernière, c'était l'arrière-plan. Dieu, dans les trois premiers jours, a créé l'arrière-plan. Un peu comme quand on va dans une pièce de théâtre, l'arrière-plan, c'est ce qui va en arrière, et l'avant-plan, c'est les acteurs. Alors, Dieu a commencé par créer dans les trois premiers jours l'arrière-plan, mais les trois derniers jours, jour 4, 5, 6, il a créé les acteurs, ceux qui vont être les vivants là-dessus. Alors, on avait vu que pourquoi le Dieu avait fait les trois premiers jours, la terre n'était pas encore prête pour les conditions d'apparition de la vie sur la terre. Ça prenait de la lumière, ça prenait une atmosphère, ça prenait que l'océan, maintenant, laisse apparaître la terre ferme, que les mers, les lacs, les rivières prennent leur place et qu'apparaisse la verdure, qui est la première forme de vie inconsciente. Alors, ce sont les choses créées les trois premiers jours de la création. Autrement dit, Dieu a créé l'arrière-plan. Maintenant, ça, c'est dans les versets 2 à 13. À partir du verset 14, aller jusqu'au verset 31, c'est vraiment les acteurs du drame créationnel. Autrement dit, les trois premiers chapitres de la Genèse ont un but en particulier. C'est celui de nous faire connaître comment le monde est apparu. Qu'est-ce qui est arrivé, dans quel ordre c'est apparu, par quelle puissance ça a été mis en place, la chute, et après la chute, comment Dieu a promis qu'il enverrait une manière de régler le problème, autrement dit, la promesse prophétique et du Messie à venir. Alors, c'était vraiment, Dieu voulait déjà nous informer du début, déjà dans Genèse, ça parle de Christ. T'sais, on parle du premier Adam, on va en arriver là, et on va voir que les Écritures font un rapport avec le dernier Adam. Donc, le premier homme et le deuxième homme qui était Adam, qui était le représentant des croyants. Alors, Genèse 3,15 est vraiment un verset clé à l'intérieur des premiers chapitres de la Genèse, à cause du fait que c'est le verset que le Seigneur se sert pour montrer que après la chute, l'introduction du péché dans le monde, Dieu avait promis qu'il enverrait un Messie pour régler le problème du péché. Alors, il dit dans Genèse 3,15, il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, il parle au serpent, entre ta postérité et sa postérité. » Et les Écritures nous disent un peu plus loin dans le livre de Galates que la postérité de la femme, c'est Christ. Il dit, « Entre ta postérité, autrement dit, tous ceux qui viendraient, des enfants qui viendraient au monde après la chute, hériteraient du problème du péché. » Mais là, quand il dit, « Je mettrai inimitié entre ta postérité, donc celle du serpent, et sa postérité, celle de la femme, et la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. » Donc, il va mettre inimitié entre les deux groupes. « Celle-ci t'écrasera la tête. » Il parle au serpent. Autrement dit, Christ va lui écraser la tête. « Et toi, tu lui blesseras le talon. » Alors, on ne rentrera pas dans l'explication de tout cela ce matin, là, mais c'est la première mention de l'Évangile qui est dans les Saintes Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 21 et 23, et les versets 45 et 49, dans le Nouveau Testament, viennent nous parler de cette réalité-là du premier Adam, ou du premier homme, avec le second Adam, qui est la personne de Jésus-Christ. Ça dit, le verset 21 à verset 23, « Car puisque la mort est venue par un homme, on est d'accord avec ça, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Quand on dit tous, ici, c'est tous les élus. Après ça, le verset 23, « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Et à partir du verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Autrement dit, le premier Adam est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le deuxième Adam, lui, était de nature spirituelle. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, on parle de Christ, est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors vraiment, le but de Genèse est déjà de nous présenter comment le problème est arrivé, comment le Seigneur a vu la solution en faisant la promesse de la venue du Messie, qui est arrivé beaucoup plus longtemps après, mais ça quand même, la promesse était là. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est, on a parlé de Dieu dans les quatre derniers jours, préparait l'avant-scène, autrement dit, les acteurs. On va regarder ça un petit peu en détail. Alors, le jour 4, c'est la création des corps célestes. Autrement dit, le jour 4, c'est les étoiles et tout ça. Ça dit dans 14, 19, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc, le jour 4, c'est la création des corps célestes. Mais si on veut un petit peu plus apprécier la grandeur de l'œuvre du Seigneur dans le jour 4, il faut quelque part aller un petit peu plus dans les détails dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a créé. On parle du grand luminaire, on parle du soleil, on parle du petit luminaire, on parle de la lune, et après ça, on parle des étoiles. On va aller donner juste quelques petits faits. On ne rentrera pas dans les détails de ça, on pourrait passer des années à examiner les différentes facettes de la création de Dieu. Soleil, lune, étoile, juste ça là, ça pourrait être le travail de toute une vie d'étude. Mais juste quelques petites mentions pour nous montrer jusqu'à quel point les Écritures ont dit ça, il a créé le grand soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Puis on est là, on considère ça comme un mot. Mais quand on rentre dans les détails, là on voit que c'est une grande chose que le Seigneur a fait. Le soleil, un diamètre, donc un grand rond, le diamètre c'est la ligne qui sépare le milieu du rond, 1392 millions de kilomètres. 1392 millions de kilomètres. Une grosse boule. Maintenant, sa masse, 333 000 fois la masse de la Terre. La température à la surface, 5500 degrés Celsius. La température au centre, du soleil, 14 millions de degrés Celsius. Alors, c'est une grosse affaire, le soleil. Et une affaire extraordinaire aussi, c'est que l'énergie puis la lumière du soleil mettent environ 8 minutes pour parcourir à la vitesse de la lumière les 149 millions de kilomètres qui les séparent de la Terre. Ça prend 14 minutes. La vitesse de la lumière, c'est 186 000 milles à la seconde. Ça va vite, ça. 186 000 milles, une seconde, puis la lumière, elle a fait 186 000 milles. 25 fois le tour de la Terre, autrement dit. Puis ça, c'est 8 minutes, donc 8 minutes, c'est 480 secondes. 480 secondes, alors c'est le temps que ça prend au rayon pour se rendre sur la Terre. C'est extraordinaire, cette création-là. Et ceux qui ont étudié l'astronomie, le Soleil, dans ses détails, ils pourraient être beaucoup plus intelligents comme moi pour parler de ces choses-là. Mais il reste qu'on devrait s'émerveiller. Quand on regarde le Soleil, c'est pas une petite chose que le Seigneur a créée. C'est une chose extraordinairement grande et qui est essentielle à la vie. Maintenant, on va prendre la Lune, 4 fois plus petite que la Terre, 81 fois plus légère. Mais il y a une force qui s'exerce, qui est tellement puissante, qui fait reculer les océans. On pense pas ça, hein, que c'est long, on voit une petite boule blanche. Mais que cette petite boule blanche-là, là, la force gravitationnelle qu'il appelle, là, si elle n'était pas là, là bien, on n'aurait pas... c'est ce qui maintient la Terre sur un axe légèrement penché. C'est tellement fort que ça impose à la Terre un axe. Et c'est ce qui permet aussi l'existence des saisons. Sans la Lune, notre Terre serait un monde déchaîné par les vents violents et les cataclysmes. Et seule une forme de vie primitive serait capable de résister à un tel climat. Voyez-vous, des fois on regarde ça, on oublie ces affaires-là, mais pourtant c'est des réalités. Alors quand les versets nous disent « créer le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit », on pourrait donner une multitude de renseignements sur ces choses-là qui devraient nous émerveiller parce que ce seul verset-là il devrait être une source pour nous de grand émerveillement. Les étoiles, on l'avait déjà mentionné, mais on ne rentrera pas dans les détails encore. Si un ordinateur avait la capacité d'observer 10 millions d'étoiles à la seconde, c'est des étoiles à la seconde, 10 millions d'étoiles à la seconde, ça y prendrait 63 millions d'années pour compter toutes les étoiles. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, là. 10 millions d'étoiles à la seconde, ça y prendra 63 millions d'années pour les compter toutes. Alors, on pourrait dire que le verset qui nous parle de la création du soleil, de la lune et des étoiles, ça nous parle beaucoup de Dieu. Et qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Ça nous dit très certainement qu'il est sage. Parce que dans le psaume 19, au verset 2, ça dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». La gloire de Dieu, c'est la manifestation de l'ensemble de tous ses attributs. Alors, quand on regarde l'étendue, le ciel, les étoiles, les planètes, tout ça, ça manifeste sa gloire. Manifeste, ça dit, ça rend visible chacun de ses attributs. Alors, si on prendrait tous les attributs de Dieu, ben l'étendue manifeste une ou l'autre, et c'est juste par l'observation et la réflexion et la méditation qu'on pourrait arriver à comprendre jusqu'à quel point ces choses-là. Et ça dit dans le verset 19, verset 2, « Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Les mains. On parlait du nombre, la masse de ça, la pesanteur de ça. Et lui, ça parle qu'il serait capable de dérouler l'univers comme nous, on déroule un manteau. Moi, si je mets un manteau sur mon lit chez nous, là, je le roule, c'est pas trop fort. Mais lui, Dieu serait capable de prendre l'ensemble de cette grosse affaire-là, là, puis de la rouler comme un manteau, puis ça ne le forcerait même pas. Ça nous donne ça une idée de la puissance du Seigneur. Donc, ça parle de sagesse. Dans le psaume 104, verset 24, ça dit « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Donc, un des attributs que les Écritures nous disent, c'est la sagesse de Dieu qui est manifestée dans sa création. Et Jérémie 51, verset 15, ça dit « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. » Si on parle d'intelligence, on parle de l'intelligence de Dieu, on dit qu'elle n'a point de limite. Une intelligence infinie. Nous, les hommes, des fois, on regarde ceux qu'on considère comme étant des grands savants, je ne sais pas, Einstein et plein d'autres, là. Si on se compare à eux, on est des tout petits, notre intelligence est petite comparativement à eux. Mais si tu compares l'intelligence d'Einstein, qui est grande au point de vue humain, à Dieu, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, parce que l'intelligence de Dieu, elle est infinie. Il y a quelque chose dans le mot infini qui est extraordinaire, parce qu'on ne peut jamais aller au bout. Infini, c'est quelque chose que tu ne peux pas aller au bout. Par définition, tu ne peux pas aller au bout. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça déploie la sagesse divine. Ça atteste la bonté divine. Dieu nous a donné ces choses-là. On a vu quelque chose tantôt. Si on n'avait pas la lumière, on ne pourrait pas vivre. Si on n'avait pas la chaleur que le soleil nous donne, on ne pourrait pas vivre non plus. Et si le Seigneur n'aurait pas mis la lune, l'axe de la Terre ne serait pas correct et on aurait des tempêtes terribles. Toutes des choses qu'on a besoin de se faire souvenir à l'occasion. Maintenant, ça proclame très certainement aussi la puissance divine. Parce que par la parole, Dieu dit et la chose est. Imaginez-vous, juste la parole, il dit que toutes ces choses-là viennent à l'existence et pouf! Ça apparaît d'un coup sec, la puissance de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui devrait nous émerveiller. Par exemple, dans le psaume 147, versets 4 et 5, ça dit « Il compte le nombre des étoiles ». Alors, on a dit que ça prendrait 10 millions à la seconde, ça prendrait 63 millions d'années à les compter. Lui, ça dit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms ». C'est spécial, hein? Moi, je veux dire... Ça fait déjà un mois que je suis arrivé ici, je ne suis pas sûr que je pourrais encore donner les noms de tout le monde sans me tromper. Là. Je commence, là. Je m'en viens bien. Là. disons, je pourrais peut-être dire 90%. Mais je dis, oh, pas pire. Mais là, on parle d'un petit nombre. Quand on parle du nombre que je vous ai dit tantôt, il leur donne à toutes des noms. Pouf. Là, c'est comme wow. Le grand wow. Aussi, pour parler de la puissance, il faut revenir aussi dans certaines partie des Écritures où Dieu nous dit qu'il commande ces choses-là. Par exemple, le passage de Josué, chapitre 10, versets 12 à 14, là où le Seigneur a permis, commandé au soleil de s'arrêter pour une période de 24 heures pour que Josué puisse gagner la guerre. Lui, ça dit, « Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil, nous, la masse qu'on a parlé tantôt, là, le Seigneur, il commande, comme un général commande un petit soldat. « Soleil, arrête-toi. Lune, fais telle chose. » Et ça se produit. Et ça dit dans le verset 13, « Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. » Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et il semble, j'ai lu quelque part, que dans les calculs astronomiques, le fameux, quand ça dit presque tout un jour, là, apparemment que c'est un fait, ça. Moi, je suis loin d'être un spécialiste d'astronomie, là, mais apparemment que cette mention-là dans les Écritures se reflète dans les faits scientifiques de ceux qui connaissent l'astronomie. Bien entendu, je pense que ça reflète aussi la bonté divine quand on regarde Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Ça dit, il parle du Seigneur, il dit, « Il a fait toutes choses belles en son temps, et il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu a faite. » Autrement dit, on peut comprendre une partie de l'œuvre de Dieu. On regarde une affaire, peut dire, « Ah, le soleil, c'est extraordinaire ce que le Seigneur... » Mais je suis loin de connaître tout sur le soleil. Alors, quand ça dit, « Depuis le commencement, l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. » On en comprend des petits bouts, comme on dit en québécois, mais on est loin, très, très loin, de comprendre jusqu'à quel point tout cela est glorieux. Tout cela est rempli de la gloire de Dieu. Maintenant, on va aller au jour 5. Création des oiseaux et des poissons. Dieu dit dans le verset 20 que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, puis le cinquième jour. Autant on a regardé tantôt le soleil, lune, étoile, un petit peu de détails pour apprécier davantage la puissance, la sagesse, l'intelligence de Dieu dans tout cela. On peut faire à peu près la même chose avec les oiseaux, puis y aller dans de très, très grandes généralités. L'ornithologie, qu'on appelle, les gens qui étudient les oiseaux, ils vont étudier ça toute leur vie, puis ils n'auront pas épuisé le sujet encore. Alors, juste pour donner une idée, combien d'espèces d'oiseaux dans le monde? Selon certaines estimations, il y aurait 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Une espèce, comme les moineaux, ça c'est une espèce. Les corneilles, c'est une autre espèce. Il y en a 10 000. Si je vous disais, venez en avant, puis nommez-moi 50 espèces d'oiseaux, une autre serait peut-être capable, une autre peut-être qui ne serait pas capable. Moi, le premier. 10 000! Et Dieu lui a dit que les oiseaux apparaissent, et ça, c'est arrivé. 10 000 espèces d'oiseaux. Et bien entendu, si on prend les individus oiseaux, là, ça se compte plus en termes de 1 000, c'est un fort probablement en termes de milliards qui sont répandus sur tous les continents, tout partout, des espèces différentes, et que même les hommes, dans toute leur science, n'ont même pas encore fini de parfaitement découvrir, répertorier, cataloguer toutes ces choses-là, et n'ont pas encore fini. Maintenant, les poissons. Combien d'espèces marines qui ont été recensées jusqu'ici? 274 000. Encore là, moi, je connais les pare-chaudes, les saumons, les truites, les barbottes. ça se limite à peu près à ça. 274 brochets, OK. 274 000. Ça donne-tu une idée? Des fois, on regarde des émissions à télévision sur la variété aquatique qu'il y a dans les océans. C'est littéralement fantastique. Chaque fois que j'écoute une émission, « Hein? J'ai jamais vu ça, ceux-là, ils n'ont jamais vu. » Puis là, ils descendent dans les profondeurs, il y en a d'autres qui sont, ils résistent à des pressions extraordinaires. Ils ont l'air des grosses boules avec des grosses dents. Pas beau, mais il reste que c'est une espèce pareille. Alors, tout cela, les poissons, 274 000, c'est énormément de monde. Alors, encore une fois, la richesse et la diversité des oiseaux et des poissons nous apprennent des choses merveilleuses sur notre Dieu créateur. Premièrement, que la vie des créatures de l'air et des eaux est une création divine. Création ex nihilo, qu'utilisent les théologiens, ex nihilo, à partir de rien. Il n'existe rien, le néant, Dieu parle et les choses apparaissent. Là, tout le monde dit, c'est de la magie. La magie divine. Alors, et aussi, ça nous enseigne que ces formes de vie-là sont merveilleusement diversifiées. Voyez-vous, dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5, ça dit, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Maintenant, on va arriver au jour 6, versets 24 et 25, la création des animaux, et après on va passer avec le dessert, le summum, la création de l'homme. 24 et 25, « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Vous remarquez le nombre de fois que « et Dieu dit que cela était bon, et Dieu dit que cela était bon. » La vie animale, on va juste encore une fois rentrer un petit peu dans quelques statistiques, question de nous éblouir un peu, parce qu'il y a de quoi nous éblouir. La richesse et la variété de la vie animale est littéralement étonnante. Selon une étude publiée par des biologistes américains, la Terre, dans son ensemble, abriterait entre 7,4 et 10 millions d'espèces. Remarquez, on a une estimation, mais entre 7,4 et 10 millions d'espèces, c'est-tu des espèces ou c'est pas des espèces? Des millions! On parle plus de mille, on parle de millions d'espèces. Une chose qui est intéressante, c'est que le premier qui a commencé à cataloguer les animaux, les poissons, tout ça, c'est un nommé Linné. Il s'appelait Carl von Linné. Il a commencé ça en 1758. Il a bâti un système avec lequel il donnait des noms, les vertébrés, les invertébrés, ici, les ça, puis il a tout créé un système pour rentrer toutes les connaissances à l'intérieur de ce système-là. Bien, 253 ans après qu'il y a eu commencé, ils ont ajouté 1,25 million d'espèces. Alors, autrement dit, il a créé comme un genre de tableau pour organiser tout cela. Et 253 ans après, c'est du temps, ça, 253 ans, que les hommes ont observé les oiseaux, les poissons, les animaux, et ils n'ont pas fini encore. Et là, ce qui est intéressant, on appelle ça des taxonomistes, ceux qui étudient les espèces, leur donnent des noms. Bon, ça, c'est une fourmi, et l'autre, c'est telle affaire. On appelle ça des taxonomistes. On dit que pour arriver à tout classer ça, ça prendrait, pour tout classer ceux qui connaissent puis ceux qui restent à connaître, ça prendrait 300 000 taxonomistes. Et ça prendrait 1200 ans pour le faire, selon leur estimation. Et ça coûterait 364 milliards de dollars, selon les estimateurs. Imaginez-vous la variété de tout cela. Mais semble-t-il que maintenant, ils ont trouvé des nouvelles techniques avec le code barre ADN qui pourraient réduire le temps. Imaginez-vous, ça prendrait 1200 ans à 300 000 personnes qui étudieraient tout le système en même temps pour arriver à essayer d'aller jusqu'au fond des choses. Ça n'a-tu des variétés? Et toutes ces choses-là sont interreliées, ont toutes leur raison d'être et ont toutes leur... C'est tout intelligent. Dieu a tout fait d'une façon intelligente. Donc, le monde animal a été créé par Dieu lui-même. Ça devrait nous donner un amour des animaux. Moi, j'ai eu un chat. Pas de farce, quand mon chat il est mort, il pleurait. J'ai pas peur de le dire. Je l'aimais, mon chat. Les animaux, Dieu nous a donné les animaux, on s'attache à ça, on les aime, on est capable. Et ça devrait être notre façon de réagir face à tout animal. L'être humain n'a pas le droit de détruire pour détruire. Pourtant, on le fait massivement, là, mais c'est un péché qu'on fait quand on fait ça. On se devrait d'aimer ce que Dieu a fait. Le monde animal a été créé aussi pour le service de l'homme. Prenez l'ensemble des animaux, les oiseaux, les poissons et l'ensemble des animaux et regardez qui ont en général toujours une utilité pour l'homme. Le transport, le cheval, le bœuf, etc. Pour le travail, pour la nourriture, pour le divertissement, et on pourrait allonger la liste. Alors Dieu est bon, il nous a donné tout cela pour qu'on puisse utiliser toutes ces choses-là pour notre bien-être. Et le Dieu a dit aussi qu'il a donné à tous ces animaux-là la capacité de se reproduire. Il a dit chacun selon son espèce. La fourmi, elle n'a pas besoin que je lui dise quoi faire pour qu'elle fasse d'autres fourmis. Et toutes les espèces, c'est pareil. Dieu a inclus dans leur bagage génétique cette capacité de s'auto-reproduire. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, on arrive à la création de l'homme. C'est nous, ça. Au sixième jour. Alors, verset 26 à 31, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » C'est spécial, ça. Il faut arrêter, là. Selon Dieu parle, il dit « faisons ». Donc, ça implique son tour. « Faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Verset 28, « Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les poissons, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se... » Ici, là, ce qui est à retenir, là, c'est que Dieu donne des commandements à l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. On va voir qu'un petit peu plus tard, quand on va avancer dans la Genèse, que l'homme est naturellement un rebelle, qui va s'opposer à Dieu. Quand il dit, remplissez la terre, à Babel, c'était quoi l'idée? C'était pas de, nous on se bâtit une affaire, on reste tout de suite. Alors, on va voir que ce que Dieu dit, plus tard, on va voir que l'homme se rebelle. Et dans le verset 29, Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » On constate qu'il y a une évolution progressive des formes de vie que le Seigneur a créées. La vie inconsciente des plantes, la vie consciente des animaux et la vie consciente d'elle-même, ce qu'elle a en anglais « self-consciousness ». Autrement dit, non seulement l'animal est conscient, mais il n'est pas conscient de lui-même. Seul l'homme est conscient de lui-même. Alors, l'arrière-plan avait été préparé. Création de la lumière, création de l'atmosphère, création des continents, des mers, de la verdure. Puis, le Seigneur a mis en place l'avant-plan avec ses acteurs, les corps célestes, soleil, lune, étoile, les oiseaux, les poissons, les animaux de l'homme. Nous voyons que l'homme est le couronnement de la création. On est le couronnement de la création. Regardez, il nous a gardé pour le dessert, autrement dit. L'homme est le plus noble, bien sûr la femme aussi, des créatures terrestres que Dieu avait créées. Les dons de Dieu pour l'homme sont nombreux. Premièrement, dans le verset 26 et 27, le don du reflet de son image et de sa ressemblance. Si je vous disais, venez donc en avant ici, venez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ressemblance à l'image et à la ressemblance de Dieu. Des fois, on serait peut-être mal pris. Alors, ces versets sont humiliants pour l'homme. Tout indique qu'il est exclu de la création, est une œuvre du Dieu trinitaire. Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? On se souvient, Job, on a étudié ça à Rouyn-Noranda. On a fait toute une étude de tout le livre complet. À la fin, à partir du chapitre 38, Job, il se plaint au sein des premiers chapitres, mais verset à partir du chapitre 38, Dieu commence à lui poser des questions. Sa manière de le remettre à sa place, c'est pas de dire « Écoute, Job, t'es impétable. » Il pose des questions. Et là, ça a pour effet de remettre Job à sa place. « Où étais-tu quand je fondais la terre? » Je pense que Job n'était pas capable de répondre à ça. « Dis-le si tu as de l'intelligence. » Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça veut dire ressembler? Moi, j'ai trouvé cinq choses. La première, le Créateur, c'est l'Esprit suprême et une intelligence infinie. S'il nous a créés à son image, si je prends une image, puis je vous montre une image de quelque chose, vous savez très bien que l'image, ce n'est pas la réalité. Il nous a créés à son image, donc il nous a créés, à quelque part, on a des ressemblances avec Dieu, mais on n'est pas Dieu. Il ne faut pas faire le grand pas, comme on dit, parce qu'il n'hésite pas à le faire. Alors, Dieu a une intelligence infinie. Cependant, il a donné à l'homme, pour ressembler à lui, une intelligence finie. Mais c'est quand même quelque chose qui fait qu'on ressemble à Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu a une nature morale, dans le sens qu'il est juste, il est saint, il est miséricordieux. Il a donné aussi à l'homme, dans une mesure finie, encore une fois, la même chose. Il permet à l'homme qu'il soit capable de juger entre le bien et le mal, capable d'être juste, capable d'être bon, capable d'être saint. Troisième chose qui fait qu'on ressemble au Seigneur, le Seigneur est le gouverneur suprême de l'univers. On l'a vu tout à l'heure, il commandait au soleil, il commandait. Mais il nous a donné à nous la domination sur toutes les créatures terrestres. Nous sommes, les hommes, le roi de la terre. Il dit « dominer ». Le Seigneur, il parle aux hommes, il dit « dominer sur les oiseaux, dominer sur les poissons, dominer sur les animaux ». Donc, à quelque part, il nous a... Lui est le grand gouverneur de l'ensemble de l'univers, et nous, il a fait de nous des petits gouverneurs. Il dit « maintenant, je vous confie à vous la gouverne de la terre ». La quatrième chose, c'est que Dieu est éternel et immortel, et il a donné à l'homme de ne pas... On meurt physiquement. Mais on est dans le sens immortel, dans le sens que notre vie, la vie de l'homme, à partir du moment que tu es créé, où tu vas passer ton éternité, ça, ça dépend si la grâce de Dieu t'est accordée ou non. Mais après que tu décèdes ton corps, OK, il décède, il s'en va en terre, il est enterré, mais ta vie n'arrêtera pas. Ton âme ressemble à Dieu dans le sens que tu as eu un commencement, lui n'a jamais eu, dans le sens, lui est immortel dans un sens que nous, on n'atteindra jamais. Mais on est immortel dans le sens que après notre vie, on va continuer à vivre, soit au ciel ou soit en enfer. On est fait d'une façon que notre vie va se prolonger dans le temps. Alors, dans ce sens-là, on a une ressemblance à Dieu. Et la cinquième chose, c'est que Dieu est un créateur. Quand on dit de quelqu'un, c'est un créateur, on dit de quelqu'un qui est capable de créer toutes sortes de choses. Il nous a donné à l'homme le don de la créativité aussi. La créativité artistique. On en connaît-tu du monde qui sont habiles de leurs mains? Moi, des fois, quand j'étais jeune, j'avais un gars, je me souviens, le vendredi, il nous faisait dessiner. Le vendredi après-midi. Puis lui, il était un destinateur. Il s'en allait, puis il faisait des affaires. Là, je le regarde à faire. Tu peux même dire comment il fait pour faire ça. Moi, je n'étais pas capable, je dessinais un chat, ça ressemblait à une poubelle, là. N'importe quoi. J'avais vraiment. Quand tu dis que tu ne l'as pas, là, tu ne l'as pas en tout. Mais il a donné à certains une capacité de création artistique, une capacité de création scientifique, une capacité de création littéraire. Pourquoi il y en a que tu lis ce qu'ils ont écrit puis tu dis « Oh, que j'aurais aimé ça être capable d'exprimer ça comme lui. » C'est créateur. Et l'autre, c'est dans l'architecture, d'autres, c'est dans le génie militaire, d'autres, c'est dans la cuisine. Il a donné à l'homme une caractéristique qui est sa propre caractéristique. Il est créateur. Et quand on a regardé tantôt le nombre de choses qu'il a créées, lui est le créateur suprême, infini, sans limite. Mais nous, il nous a quand même donné quelque chose qui fait qu'on ressemble à Dieu, dans un certain sens. Il a donné à l'homme aussi toutes sortes de talents, où on devient, nous aussi, des créateurs. Donc, on a vu, la première chose qu'il nous avait donnée, c'est le don de son image et de sa ressemblance. Mais il nous a donné d'autres choses aussi. Le don, dans le verset 26, le don de la domination sur la terre. Comme il est, lui, le grand dominateur de l'univers, il nous a donné à nous d'être le roi de la terre. Troisième don, le don de la propagation. Il nous a donné, donc il a créé l'homme et la femme, de manière à ce qu'on puisse se reproduire. Regarde, on est rendu en 2016, et si mon père, ma mère n'avaient pas eu une relation, mais je ne serais pas là. Comme vous autres, vous ne seriez pas là. Dieu a donné à l'être humain la capacité de se reproduire. Dans le verset 28, il a donné un autre don, celui de la bénédiction divine. Ça dit « Dieu les bénit ». Et dans le cinquième don, il nous a donné une mission. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez ». Sixième don, le don de pourvoir à sa nourriture et à celle des animaux. Donc, il avait tout mis en place pour qu'on soit capable de s'auto-nourrir et même les animaux entre eux, que tout ça, c'est un système d'une complexité infinie pour qu'on soit capable. Et la dernière chose, c'est le don de l'approbation divine. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Quelles sont les applications pratiques qu'on peut faire à partir des versets 14 à 31? Premièrement, je dirais, la création du soleil, de la lune et des étoiles devrait être pour nous une source inépuisable d'émerveillement, de joie, de gratitude et de louange à notre grand et glorieux Seigneur. Deuxième application. La création des oiseaux et des poissons manifeste la bonté, la puissance et la sagesse divine. Ouvrons les yeux autour de nous pour observer la beauté, la variété et l'utilité de ces créations divines. Ne prenons pas tout pour acquis, que toutes ces merveilles aient pour objet de recentrer notre attention et notre admiration sur Dieu et ceci quotidiennement. Que le Seigneur ait dit, regardez les lys des champs. Et dans le livre de la Proverbe, va vers leurs fourmis paresseux. La nature est la plus grande pédagogue qu'on ne peut pas trouver, mais c'est Dieu qui a permis qu'on peut observer juste par voir ce qu'il y a dans la nature, l'eau, les nuages. C'est une source d'observation inépuisable qui devrait toujours nous recentrer sur Dieu. Peu importe ce qu'on regarde, on regarde un chat, on regarde un chien, on regarde un poisson, tout est fait d'une façon tellement extraordinaire que ça devrait, chaque fois qu'on regarde quelque chose, avec le moindre moment d'attention, on devrait dire « Loué sois-tu, Seigneur! » Parce que c'est toi qui as fait ces choses-là. Troisième chose, ne sommes-nous pas subjugués par l'intelligence de Dieu qui a placé une telle perfection, une telle beauté, une telle utilité sur toute la vie animale? Sommes-nous reconnaissants de tous les dons de Dieu dans la création de la vie humaine, le reflet de son image, la domination qu'il nous a donnée, la capacité de reproduction, la bénédiction qu'il nous a accordée, la mission qu'il nous a accordée et l'approvisionnement qui permet qu'on puisse obtenir autour de nous et une attestation divine que tout cela est bon. Alors, que le Créateur trinitaire soit béni, loué et adoré éternellement pour ses dons. Amen.